400 coups. L'émission ciné des 400 coups.
De 17h30 à 18h.
Tous les premiers mercredis du mois sur Radio Campus.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez les 400 coups, l'émission des cinémas les 400 coups. Bienvenue sur les ondes de Radio Campus Angers sur le 103 FM. Nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la toute première émission de cette nouvelle année 2025.
Nous espérons que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année et nous vous souhaitons une très belle année cinématographique. Au programme de cette émission, pas une mais deux invités à notre micro, Cécile de France et Élise Odenberger, nous ont fait le plaisir de venir nous parler de leur collaboration dans le film Par Amour qui sortira le 15 janvier sur nos écrans.
Le retour comme tous les ans du Festival Premier Plan d'Angers pour sa 37e édition. Xavier Massé, administrateur du festival, partagera ses coups de cœur et les temps forts à ne surtout pas louper.
Et pour finir, un tour rapide de nos événements, ça se passe en dernière partie d'émission. Vous êtes prêts? Les 400 coups, l'émission épisode 13, c'est parti!
On commence donc avec Cécile de France et Élise Odenberger, venues nous parler en avant-première de Par Amour, une fable fantastique et familiale, réalisée et écrite par cette dernière. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit peu de Steven Spielberg dans tout ça?
On ne vous en dit pas plus et on vous laisse avec Cécile et Élise, une interview exclusive pour les bonnes ondes de Radio Campus Angers, réalisée en collaboration avec Sébastien Michaud. Bonjour Élise, bonjour Cécile, bienvenue au 400 coups. Nous sommes ravis de vous accueillir à Angers pour nous présenter en avant-première votre film Par Amour. Alors pour commencer, Élise, pouvez-vous nous raconter en quelques mots l'histoire de votre film et comment vous est venue l'idée du scénario?
Alors Par Amour raconte l'histoire d'une famille, un couple, deux petits garçons, un de 9 ans, un de 6 ans. C'est un couple en crise au début du film et un petit garçon, un préadolescent qui n'est pas très bien, évidemment parce que ses parents ne vont pas très bien, mais qui même lui, on comprend que c'est un petit garçon qui est un peu en difficulté et il va se passer un événement un peu surnaturel auquel on ne va pas avoir accès tout de suite, mais il va confier un jour à sa maman qu'il entend des voix quand il est dans l'eau, et cette maman va décider de le croire très fort et va entamer un chemin mouvementé dans cette croyance et embarquer avec elle, essayer au maximum de le soutenir et d'embarquer avec elle le reste de la famille, mais ce n'est pas si simple.
Cécile, à la lecture de ce scénario, j'imagine que c'est quand même assez surprenant, on a vu le film, on imagine quand on lit en plus ce scénario, on se dit mais mon Dieu, dans quoi on part, quoi, parce que là on est vraiment c'est un film à différents tiroirs, on va dire, quoi.
Oui, mais c'est ça qui est intéressant, c'est un film qui interroge, il démarre effectivement, comme le dit Élise, on est dans une famille, donc quelque chose d'assez intimiste, et puis petit à petit, de manière assez poétique, suggérée, progressive, arrive l'univers et le récit fantastique, et qui nous emmène évidemment comme dans tous les récits fantastiques, il y a beaucoup d'angoisse, de doute, puisque les gens qui vivent un événement fantastique ou surnaturel ne savent pas s'ils ont rêvé, s'ils sont fous, s'ils savent pas à qui en parler, et c'est l'union de cet enfant et de sa maman, unis par ce récit si commun, cette croyance qu'ils ont ensemble, par amour finalement, et qui va entraîner toute la famille effectivement dans un voyage où le spectateur va se demander, tiens, mais est-ce que cet événement fantastique va les sauver, va réveiller la foi en l'amour, va ressouder les liens fragilisés de cette famille au bord du divorce, quoi.
Cécile, comment avez-vous appréhendé la lecture de ce scénario? Aviez-vous déjà eu connaissance du travail d'Élise et comment s'est passée votre rencontre?
Alors, j'ai adoré le scénario. J'ai tout de suite regardé ce qu'avait fait Élise. Donc, je n'avais pas vu Lune de miel, qui était son premier film. Et donc, je l'ai regardé. Je l'ai beaucoup aimé. J'ai aimé cette sensibilité. J'ai compris qu'en fait, son cinéma était sincère, personnel, qu'elle aimait parler de la parentalité, du couple, de l'intimité, des enfants. Je sentais que c'était chez elle une nécessité. Donc ça m'a beaucoup plu d'avoir collaboré avec quelqu'un qui donne du sens à son cinéma parce qu'il est sincère et profond et vrai. Et puis on s'est rencontrés et là j'ai encore plus aimé son univers parce que j'ai vu que c'était quelqu'un qui était très connecté à son âme d'enfant. D'abord, on a la chance d'être actrice, qui nous permet d'être, de revendiquer cette part d'enfance, puisqu'elle est nécessaire dans notre métier, mais aussi la connexion qu'on peut avoir avec nos enfants. Et ce qui fait de nous, Élise et moi, des mamans très heureuses et très connectées à nos enfants.
On a l'impression d'un film, on aime bien mettre des cases, des étiquettes en France sur le cinéma, sur la musique. Et là, du coup, on a l'impression qu'on bouscule un peu les codes, on bouscule un petit peu les gens avec ce film, parce qu'effectivement, on est dans le domaine, on pourrait dire, du fantastique carrément. On est dans le domaine de l'irrationnel et en même temps on est tout simplement dans une famille, voilà, un couple, un homme, une femme et des enfants. Et comment on arrive justement à coller tous ces éléments ensemble et arriver à former un tout cohérent quelque part?
Après, moi, je l'ai vraiment écrit de manière très sincère, comme une histoire, comme une fable, un petit conte en fait. Donc tous ces éléments se sont mélangés de manière assez naturelle. Et après, oui, effectivement, je vois bien que ce film est à la frontière de différents genres, et on peut parler d'un drame fantastique, mais j'ai pas volontairement fait quelque chose à la frontière de plein de genres. J'ai écrit cette histoire, je voulais que ce soit un film de genre parce que le fantastique me paraissait être la manière la plus organique et la plus puissante en fait pour parler de ce que vit cette famille et cette mère. Je voulais, voilà, l'eau, les éléments, enfin tout ça, c'était à mon sens une manière très puissante de raconter les émotions. Mais voilà, je me suis pas dit je vais faire quelque chose de volontairement, c'était pas ça l'idée. À l'écriture, en revanche, on s'est amusé avec mes co-scénaristes à bousculer un peu le spectateur. On se disait, ça, on aimait bien l'idée d'être un peu bousculé, comme dit Cécile. Ça c'était volontaire. Mais bon, après, le genre, les cases dans lesquelles on met les films, ça, c'est pas nous qui faisons ça en fait. Les gens sont des critiques, ou je suis même pas sûre que le public en fait fasse tant que ça, cette chose là c'est plus un truc de retour un peu de professionnel, j'ai l'impression.
Et vous, Cécile, du coup, quel est votre rapport avec le cinéma fantastique?
J'aime beaucoup ça, j'aime m'être emmenée, j'aime qu'on me prenne la main et qu'on m'emmène me raconter des histoires insensées. J'aime quitter la réalité, j'aime bien aussi tourner dans des films d'ailleurs qui interrogent le cartésianisme de la société. Et c'est vrai que dans notre société blanche occidentale, elle est très très présente. On est très matérialiste, donc je trouve ça toujours intéressant et passionnant d'éveiller nos consciences en relativisant toujours un petit peu l'impalpable, le mystère, ce que l'humain n'explique pas toujours, pour garder cette humilité et garder cette capacité à notre émerveillement, qui est une des grandes forces de l'humanité.
Pour revenir à des choses beaucoup plus terre à terre, là, du coup, dans ce film, on a aussi les enfants, un petit peu, c'est le ciment du couple, quelque part aussi, ça propose une certaine vision du couple.
C'est une famille. C'est vrai qu'on a différents prismes. Hein. Dans une formule à quatre, il y a plusieurs manières de voir les choses. Il y a le couple et puis il y a les deux frères. D'ailleurs, ce sont de vrais frères dans la vie. Il y a la maman et l'enfant. Il y a le papa et les deux enfants. Il y a la maman et les deux enfants. Il y a toutes les combinaisons possibles et qui sont, comme dans la réalité, à la fois complexes et puis merveilleux, difficiles, toutes ces choses de la vraie vie de famille. Ouais.
Et donc, vous venez de le dire, les deux acteurs qui jouent les deux petits, ce sont deux vrais frères. Comment s'est passé le tournage avec les deux enfants?
Merveilleusement bien. Ils avaient été très bien préparés par Élise. Elle les a emmenés vraiment dans son imaginaire en stimulant le leur, en les invitant, sans jamais se prendre au sérieux, à participer à un grand jeu et en créant des liens vraiment sincères et véritables entre Arthur, moi et donc voilà, nos deux enfants qui étaient absolument délicieux, adorables, à croquer. Et donc ça a été pour nous très agréable, d'abord parce que Élise s'en occupait beaucoup et elle les a vraiment préservés du plus qu'elle le pouvait du stress, de la fatigue. On a essayé de tourner dans l'ordre chronologique, ce qui a permis aux enfants de vraiment s'accaparer la trajectoire de leur personnage Et donc il se sentait très investi. Et donc ça a été 6 semaines assez facile finalement, alors que c'est pas forcément toujours évident d'emmener les enfants dans un délire d'adulte finalement. Mais je crois que ça tient vraiment à la connaissance des enfants d'Élise.
Élise, avez-vous de suite pensé à Cécile pour interpréter Sarah, et comment s'est déroulé le casting ?
Alors il n'y a pas eu de casting parce que j'ai tout de suite pensé à Cécile et je lui ai fait lire le scénario et j'ai eu la chance qu'elle dise oui. Donc ça s'est passé de manière très classique et avec une issue très heureuse vu qu'elle a dit oui.
Et vous, Cécile, comment avez-vous appréhendé le rôle de Sarah, cette maman qui va bouleverser son quotidien et presque s'abandonner à une forme de croyance irrationnelle ?
Je me suis connectée à Navid et Darius, principalement, aussi à l'imaginaire d'Élise, et je me suis laissée aller. Et c'est vrai que c'est un personnage qui vit une vraie trajectoire et qui part vraiment au départ de... Voilà, elle se débat avec son quotidien, avec ses problématiques, ses frustrations. C'est une maman qui est surmenée, qui n'est pas épanouie professionnellement, personnellement. Elle est vraiment au bord du burn-out, quoi. C'est vraiment un personnage en crise totale. Et puis, donc, on va voir toute cette évolution à travers toute cette histoire. Et donc, c'est passionnant pour une actrice d'avoir à faire ce chemin-là. Et donc, je pense que j'ai démarré, comme on a pu tourner plus ou moins dans l'ordre chronologique, ça m'a permis de vraiment me laisser aller dans l'histoire en ayant comme socle ces liens qu'on a créés avec Navid et Darius.
Alors, en regardant Par amour, on pense à Spielberg, notamment pour le côté fantastique et les extraterrestres, mais également pour la place qu'occupe la famille dans ce cinéma-là. Avez-vous des inspirations pour votre film ? On a pensé par exemple dans l'équipe à Rencontre du troisième type ou E.T.
Oui, mais vous avez bien vu. Oui, c'est deux films très importants pour moi et qui m'obsèdent énormément. Et le cinéma s'appelle Les 400 coups et vous n'êtes pas sans savoir que c'est Truffaut qui a donné l'idée d'E.T. à Steven Spielberg quand ils ont tourné Rencontre du troisième type. Et voilà, je pense que autant Truffaut que Spielberg, c'était des gens qui ont su préserver cette âme d'enfant. Donc on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, c'est des influences hyper importantes.
Vous avez tout de même souhaité qu'il y ait le moins d'effets spéciaux possible. Comment avez-vous fait, notamment avec la présence de l'eau, donc comme le disait Cécile, qui est un élément central, voire même un personnage du film ?
Eh bien, c'était plein de petits... Alors, j'avais quand même envie qu'il y ait un maximum de trucage fait au plateau, pour aussi que les enfants, pas que les enfants d'ailleurs, enfin que tous les acteurs puissent jouer au maximum pour de vrai, parce que c'est vrai que quand on fait beaucoup de choses en numérique, c'est pas du tout la même manière de vivre les scènes. Et aussi parce que j'avais l'impression que peut-être le film vieillirait mieux. On a eu une équipe de déco très très ingénieuse et inventive parce qu'on n'avait pas non plus des moyens fous. Donc ça reste un film d'auteur avec un budget assez modeste. Ils ont trouvé comment construire ce décor pour pouvoir, sans dévoiler le film, mais en tout cas pour pouvoir aller jusqu'au bout de ce qui s'y passe de manière faisable et pas dangereuse. Donc c'était c'est très amusant.
Et comme on le disait tout à l'heure, le film met en avant dans la famille des relations de confiance, de croyance et parfois même de foi. Votre film s'appelle Par amour. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur le titre Par amour?
C'est vraiment ça, c'est tout ce par amour de cette mère pour son enfant, de cette famille, enfin jusqu'où on est prêt à aller par amour et cette croyance. Oui, c'est vraiment un film sur la croyance, mais sur la croyance en cette famille, sur la croyance en soi aussi, en ses rêves, en ne pas abandonner tout ce en quoi on a toujours cru, ses rêves d'enfant, voilà.
Alors, ce qui est intéressant dans votre film, c'est que nous sommes au cœur de cette famille qui se divise, et en tant que spectateur, nous sommes tiraillés entre la foi de Sarah et le scepticisme d'Antoine. Était-ce votre volonté ?
L'idée, c'était vraiment d'essayer de faire donc une fable, un conte. Donc, c'est le père qui endosse ce rôle-là, qui est aussi un peu le rôle du spectateur, qui est un peu le point de vue du spectateur aussi, parce qu'effectivement, on peut s'inquiéter à certains moments quand même de ce qui se passe. Enfin, c'était important pour moi d'avoir tous ces points de vue. Néanmoins, je voulais pas qu'il soit carrément caricatural, je voulais qu'on puisse comprendre aussi ce qu'il ressentait. Il a des raisons de s'inquiéter dans le film. Moi, j'avais à cœur de parler de l'état dans lequel est Sarah au début du film, de ce presque burn-out, de sa charge mentale, de tout ça, parce que j'ai l'impression que c'est quand même encore une réalité très partagée par beaucoup de schémas familiaux, même si, évidemment, il y a des familles différentes. Bah, aujourd'hui, les femmes gagnent quand même moins d'argent que les hommes. C'est souvent elles qui s'arrêtent de travailler quand un enfant arrive et qui reprennent moins vite parce qu'encore une fois, elles gagnent moins d'argent et que tout ça fait que... Alors, ça ne veut pas dire que tous les hommes vivent cette situation de manière complaisante et ne souffrent pas. D'ailleurs, le personnage d'Antoine souffre de cette situation-là. Mais bah, tant que le monde ne changera pas un peu, on se retrouve dans ces schémas-là. Donc, c'est pour ça que je voulais raconter ça. Maintenant, je pense qu'un papa aurait tout à fait pu vivre cette histoire du point de vue de Sarah dans un autre schéma familial. Mais voilà, j'ai choisi de le raconter de cette manière parce que ça me semblait être aujourd'hui quand même peut-être le schéma le plus partagé aujourd'hui.
Eh ben, merci Élise, merci Cécile d'avoir répondu à nos questions. On vous souhaite plein de belles choses pour la sortie de Par Amour, merci, que vous retrouvez au 400 coups à partir du 15 janvier. Merci,
merci
à vous.
Merci.
Et puis cette semaine, on avait envie de vous faire découvrir un morceau extrait de la BO du film Jolie Jolie de Diastème, toujours sur nos écrans. Alex Baupin, compositeur fétiche de Christophe Honoré, signe ici une bande originale au charme désuet. Jolie Jolie, c'est également le titre du morceau que nous allons écouter, interprété par Laura Felpin et William Lebguil.
Je l'ai vue si belle à l'autre bout du bar. J'ai pensé c'est Noël, quelques jours en retard. Tu avais l'air si triste, je t'ai fait rire un peu. Le Père Noël existe, peut-être même le bon Dieu. Puis tu as bu beaucoup, moi j'ai bu beaucoup trop. Mais je tiens mieux le coup, disons donc ex aequo. Ces pensées qui nous viennent lorsque tard dans la nuit, l'alcool dedans nos veines nous a tout engourdi, tout chauffé, tout transi. Ces pensées qui nous viennent, amour, te l'ai-je dit, c'est beau quoi qu'il advienne, mais pas joli, joli.
Je l'ai vu si seul à l'autre bout de rien. J'ai pensé qu'il me veuille un peu, ce serait bien. Il a dit quelque chose de bête et j'en ai ri. C'était drôle, je suppose. Il a dit, c'est gentil. Alors nous avons bu comme quand c'était avant. J'étais une inconnue où il faisait semblant. Ces pensées qui nous viennent lorsque tard dans la nuit, l'alcool bien lavé m'a envoyé celui qui ne sait pas qui je suis. Ces pensées qui nous viennent, amour, te l'ai-je dit, c'est beau quoi qu'il advienne, n'est pas joli. Jolie. Quand je l'ai vue si belle au réveil ce matin, j'aurais pu, c'est cruel, la broyer dans mes mains. Lui arracher le cœur et lui crever les yeux, balancer des horreurs et tirer ses cheveux. Mais j'ai fait du café, du bon café vraiment, et le café coulait comme mes larmes au-dedans. Ces pensées qui nous viennent lorsque tôt le matin, l'amour dedans leur veine a tracé son chemin, c'est profond comme plus rien ne sera comme avant, comme quand c'était permis de penser en tremblant qu'il est joli.
À Alors, qu'est-ce que vous faites du 18 au 26 janvier? Eh bien, nous vous proposons d'aller faire un tour au festival Premier Plan d'Angers. Des premières œuvres européennes en compétition, des films d'école, des plans animés, des rétrospectives, bref, du cinéma dans tous ses états. Xavier Massé, administrateur du festival, nous dévoile les incontournables de cette 37e édition. Une petite mise en bouche, rien que pour vous. Bonjour Xavier et bonne année.
Bonne année.
Merci d'être avec nous pour les 400 coups l'émission, la première de cette nouvelle année 2025. Alors du 18 au 26 janvier aura lieu le festival Premier Plan d'Angers, le rendez-vous ciné incontournable de ce début d'année. Peux-tu nous en dire un peu plus sur cette 37e édition?
Merci Georges. Eh bien, écoutez, toujours un plaisir d'être sur votre antenne pour présenter le festival Premier Plan, qui est effectivement un moment important pour la ville d'Angers et au-delà aussi, en termes de culture, de cinéma et de dynamique entre les gens autour de cette proposition qui sera la 37e du nom. Il reste une dizaine de jours pour tout préparer. Elle occupera bien évidemment le cinéma Les 400 Coups, là où est né le festival d'ailleurs, mais aussi le centre de congrès transformé en salle de cinéma et qui deviendra la plus grande salle de cinéma du Grand Ouest. Voilà, on rivalise avec le Grand Rex à Paris quand on l'équipe le centre des congrès. Il y aura nos amis du Pâté qui seront associés, nos amis du Quai. Il y aura le Grand Théâtre qui sera installé d'un théâtre à l'italienne à une salle de cinéma avec du matériel spécifique qui fera que ça sera un lieu formidable pour découvrir des films sur grand écran. Il y aura aussi le Joker, il y aura aussi le 4, il y aura plein de lieux qui accueilleront cette manifestation donc, et on aura plus de 200 films à découvrir à cette occasion. Les films qui seront présentés, tout d'abord ça sera des films qui sont présentés en compétition parce que n'oublions pas que Premier Plan c'est un film de découverte, de premier film européen. Il y a depuis un an une équipe qui travaille d'arrache-pied pour découvrir ce qui sera la jeune génération de cinéastes européen et quels seront les films qu'on verra sur nos écrans et quels seront les courts-métrages qui vont révéler ces talents. Donc une compétition de 100 premiers films avec évidemment une sélection de 10 longs-métrages, une sélection de 10 courts-métrages européens, une sélection très spécifique consacrée à la richesse du cinéma français avec 10 courts-métrages, des films d'école hein, parce que c'est un passage où on peut faire ses premiers plans en Europe avec beaucoup de moyens et beaucoup d'attention de la part des professionnels. C'est un vivier intéressant à mettre en avant. Et puis aussi, une section qu'on a montée il y a quelques années qui fonctionne très bien, plan animé, consacré aux jeunes cinéastes qui se lancent dans une carrière toujours longue et exigeante dans le cinéma d'animation. Il y aura aussi quelque chose qui est très 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 important pour nous maintenant, c'est une compétition dédiée aux jeunes spectateurs de 3 à 11 ans qui s'appelle Chenaplan. C'est des films qui sont choisis pour ce public-là, pour cet âge-là. Spécificité de Chenaplan, c'est une section compétitive, c'est-à-dire qu'on va demander à ces bambins, à ces jeunes cinéphiles, à ces jeunes spectateurs, souvent c'est la première séance pour eux, de voter pour leur film préféré. C'est un vote du public. Donc c'est aussi à la fois une ouverture culturelle et c'est aussi, aussi une ouverture sur la citoyenneté, puisque ça sera pour la première fois pour eux le moyen de voter, de s'exprimer collectivement sur un choix. Et puis quelque chose qui a marqué aussi l'histoire du festival, ce sont les lectures de scénarios créées en 91. Ça a toujours été des grands moments, une spécificité du festival qui a été souvent copiés, jamais égalés. À Premier Plan ont été lus dès 91 des grands films, voilà, et lus avant réalisation, c'est-à-dire que là on travaille sur la matière brute du film, le scénario, et on a eu l'occasion la première année de découvrir notamment le premier film long métrage Arnaud Desplechin, La Sentinelle, et puis plein d'autres films qui ont été découverts au fil des années, plus récemment le Petit Pisan d'Hubert Charvel, ou alors pour ceux qui s'en rappellent le Kirikou et la sorcière de Michel Oslo. Voilà, un exercice incroyable pour les comédiens, un exercice intéressant pour les réalisateurs et scénaristes puisqu'ils vont entendre leur film, ils vont ressentir les premières sensations des spectateurs, auditeurs, avant même qu'ils aient des images à voir. Voilà, ça c'est la partie sélection officielle, compétition, sans film donc, 10 scénarios, et aussi à noter que cette sélection, elle a été faite parmi plus de 3500 œuvres vues ou lues. Donc vous voyez le travail un petit peu de sélection important, mais qui fait aussi l'exigence et la qualité de cette sélection.
Alors, Premier Plan, c'est aussi des rétrospectives. Donc, cette année à l'honneur, je crois, Fellini, Jeanne Balibar. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots?
Donc, on aura l'honneur d'accueillir Jeanne Balibar, voilà, en collaboration avec nos amis du Quai, puisqu'elle sera là pendant 3 jours. Jeanne Balibar viendra donc présenter son travail, ses films en tant que comédienne, son film en tant que réalisatrice, et elle sera là pendant 3 jours à la rencontre du public. Et on aura aussi l'occasion de la découvrir sur scène, au Quai, lors la représentation de la pièce Les Historiennes qui aura lieu le dernier jour du festival. Voilà, c'est la première invitée, on est très content de l'accueillir. Elle sera accompagnée de Nicolas Philibert, voilà, que vous connaissez tous parce que c'est un grand cinéaste français qui, depuis 30 ans, fait des documentaires qui ont marqué l'histoire de l'exploitation du cinéma. Un cinéaste qui a été primé dans beaucoup de festivals, notamment à Berlin. Voilà, et on passera de être à avoir jusqu'à l'Adamant un panel de 10 de ses films, comme Le Pays des Sourds. Et ça sera une rencontre très riche autour de son cinéma documentaire qui est exigeant, accessible, mais avec quelqu'un effectivement qui sera là pour partager aussi sa métier, sa passion du documentaire. On va accueillir aussi un jeune cinéaste qu'on connaît bien, Juho Kosmanen, puisque c'est un Finlandais qu'on l'a accueilli ici à Angers il y a déjà quelques années, une dizaine d'années, pour préparer son premier film dans le cadre des Ateliers d'Angers. Ces ateliers qu'on a créés en 2005 avec Jeanne Moreau. Et Juho était venu présenter son projet et développer son projet, Olimaki, qu'on présentera. Et là, il viendra avec l'ensemble de ses productions, courts-métrages, longs-métrages, qu'il a réalisé depuis 10 ans. Il sera là aussi, lui, mis en avant comme jeune cinéaste européen qu'un festival comme Premier Plan accompagne depuis son émergence. Je pense que ça sera une rencontre intéressante. Il y a un panorama total de la manière dont ce cinéaste a construit son œuvre, déjà assez importante hein, quand même, depuis 10 ans. Et puis, un lien direct avec les 20 ans des ateliers, puisque Juho faisait partie des participants aux ateliers il y a plus de 10 ans. Mais ces ateliers ont 20 ans et vont fêter ces 20 ans. Voilà. Et en 2005, ont eu lieu la première édition de ces ateliers d'Angers, créés par Jeanne Moreau et l'équipe de Premier Plan, avec comme objectif principal d'accompagner des jeunes cinéastes ayant réalisé déjà un court-métrage, ayant un projet en écriture, de les accompagner dans le développement de leur premier long-métrage. Ce premier long-métrage, souvent accompagné par de la production, mais pas encore du même coup encore finalisé, et ben il avait sa place dans ces ateliers. Et Angers, c'est un incubateur, un développeur de projets depuis 20 ans, de ces projets qu'on retrouve sur nos écrans. Alors bon, on aura le plaisir d'accueillir plusieurs lauréats de nos ateliers, mais qui ont aussi eu un succès en exploitation derrière. On va parler de Girl, de Lucas Donte, qui sera là, Lucas Donte, Keeper, de Guillaume Sénèze, et aussi d'autres qui viendront présenter leurs films. Mais ça sera vraiment un clin d'œil à Jeanne Moreau, à ses 20 ans, et au travail d'accompagnement de Premier Plan de ces jeunes cinéastes dans la durée. C'est-à-dire qu'avant de venir aux ateliers, souvent, ces jeunes cinéastes, on les a repérés dans des sections de courts-métrages. Donc ça, c'est le travail de Premier Plan, de s'inscrire dans la durée, dans la relation fidèle avec des cinéastes dans lesquels on croit et pour lesquels on travaille pour accompagner au mieux leur parcours. Il y aura aussi une autre rétrospective qui va compter pour tous les grands cinéphiles. Pour les plus anciens, les plus âgés, ça sera de redécouvrir Fellini, qu'ils avaient découvert depuis les années 60. Et puis pour les plus jeunes, de redécouvrir ce cinéaste étonnant. Voilà, prolifique, on va dire hyper créatif. Voilà, bon. Donc une redécouverte totale sur grand écran avec des copies toutes neuves des films de Fellini qui sont à chaque fois un choc esthétique, narratif, en tout cas une expérience à vivre. Sur des grands écrans, je peux vous dire que ça va étonner plus que qu'on ne croit de jeunes spectateurs. Pour conclure, qui nous tient à cœur, c'est Voisins, Voisines. C'est un panorama de 20 films qui vont parler de la manière dont on vit ensemble, tout simplement. Comment on se côtoie, comment on se regarde, comment on est les uns à côté des autres. Est-ce que ça peut générer comme histoire souvent positive et puis parfois un peu moins positive. Voilà, donc ça sera tout le panel des émotions, des sentiments, des situations générées par la rencontre avec son voisin et son voisine qu'on aura l'occasion de découvrir. Ça ira du film de Spike Lee, de The Right Things, jusqu'à L'Adji avec Les Misérables. Donc un panel de films à découvrir là aussi sur grand écran qui montreront ce que le cinéma traite de mieux, à savoir la manière dont les hommes vivent ensemble. Et pour conclure, un petit focus qui est très important pour nous en ce moment, c'est animation et écologie. Ça veut dire comment l'animation s'empare de ce cinéma, de cette thématique aujourd'hui plus que d'actualité, qui anime nos vies. Comment l'animation nous montre comment le monde est bousculé, mais comment aussi on peut le restaurer. Voilà pour la partie rétrospective.
Eh bien super, je te remercie Xavier. Plein de belles choses pour cette 37e édition. Donc le Festival Premier Plan d'Angers, c'est du 18 au 26 janvier. Merci Xavier.
Un petit mot sur la sortie du mois, il a gagné le Lion d'Or Venise 2024, je parle du nouveau film de Pedro Almodovar qui revient un an seulement après Strange Way of Life. Souvenez-vous, c'était deux courts-métrages sur la thématique très chère aux yeux du réalisateur, l'amour évidemment. On retrouve de nouveau Tilda Swinton à l'affiche, mais également Julianne Moore et John Turturro. Cette fois-ci, c'est une histoire d'amitié.
Ingrid et Martha, amies de longue date, ont débuté leur carrière au sein du même magazine. Lorsqu'Ingrid devient romancière à succès et Martha reporter de guerre, leurs chemins se séparent. Mais des années plus tard, les routes se recroisent dans des circonstances troublantes. Le film sort en salle aujourd'hui.
pour finir, un événement à ne pas manquer en janvier, notre prochain plan culte, et c'est une double soirée qui met à l'honneur le réalisateur Cronenberg. Rendez-vous donc le mardi 14 janvier avec Faux Semblant à 20h. Deux jumeaux, Beverly et Elliot, gynécologues de renom, partagent tout. Le même appartement, la même clinique, les mêmes idées et les mêmes femmes. L'arrivée d'une actrice célèbre va venir bouleverser leur quotidien.
On enchaîne avec, en deuxième partie de soirée, Existence à 22h15. Avec pour notre plus grand plaisir à l'affiche, Jude Law, Jennifer Jason Leigh et Willem Dafoe. Dans un avenir proche, une créatrice de génie, Allegra Geller, a inventé une nouvelle génération de jeux qui se connectent directement au système nerveux, Existence. Lors de la séance de présentation du jeu, un fanatique cherche à la tuer. Un jeune stagiaire en marketing, Ted Picoul, sauve la vie d'Allegra. Une poursuite effrénée s'engage, autant dans la réalité que dans l'univers trouble et mystérieux du jeu. Si David Cronenberg a su rester aussi longtemps un des plus passionnants créateurs de cauchemars organiques, c'est avant tout parce que ses histoires sont à la fois surréalistes et provocantes. Alors ne manquez pas notre plan culte spécial Cronenberg, mardi 14 janvier à partir de 20h, et c'est bien évidemment dans votre ciné préféré.
Voilà, l'émission touche à sa fin. Merci de nous avoir écoutés. Bien sûr, vous retrouverez notre programmation et tous nos événements sur www.les400coups.org et sur nos réseaux sociaux.
D'ici là, courez dans nos salles et on se retrouve le mois prochain sur Radio Campus Angers, 103 FM. Salut Cécile. Salut.
À bientôt Jean.
Salut Étienne.
Salut tout le monde.
Les 400 coups.
Une émission à retrouver en podcast sur www.radiocampusangers.com.